Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le journal radiophonique Amplifié, le dernier de cette année. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Marie, Robin, Mathias, Léo, Raph et puis encore une Marie. Nous allons une fois de plus vous présenter toute l'actualité sous toutes ses coutures et puis Amplifié bien entendu. Et puis nous allons commencer sans plus tarder donc avec le journal qui va vous être présenté par Mathias. Bonjour à toi Mathias.
Et on commence tout de suite par les titres. Primaire à gauche, 9 candidats ont déposé un dossier de candidature au siège du Parti Socialiste pour participer à la primaire citoyenne de la Belle Alliance Populaire qui se tiendra en janvier. Élection présidentielle toujours, François Fillon a composé son équipe de campagne qui comporte une centaine de membres et voit les jupéistes faire le retour dans l'organigramme. La baisse des impôts prévue par le gouvernement aura lieu dès janvier alors qu'elle était initialement prévue pour août. Elle doit concerner environ 5 millions de personnes touchant jusqu'à 18 500 euros par an qui bénéficieront d'une réduction d'impôts de 20%. Christine Lagarde sera fixée sur son sort lundi. L'ancienne ministre de l'économie et actuelle dirigeante du FMI est jugée par la Cour de justice de la République pour négligence lors de l'arbitrage entre l'État et le Crédit Lyonnais de Bernard Tapie. Le procureur a d'ores et déjà requis la relaxe de Christine Lagarde. 7 nouvelles agglomérations obtiennent le statut de métropole. Le nombre de métropoles françaises passe de 15 à 22. Dijon, Orléans, Saint-Étienne, Toulon, Clermont-Ferrand, Metz et Tours ont gagné ce statut jeudi 15 décembre. Boulogne-Billancourt, un homme a trouvé la mort lors d'un incendie, probablement criminel, d'un centre d'accueil pour travailleurs migrants dans la nuit de jeudi à vendredi. Les employés de l'entreprise de VTC Uber manifestaient hier contre leurs conditions de travail. L'entreprise américaine a fait savoir aujourd'hui dans un communiqué qu'elle refusait de discuter avec les syndicats qui doivent être reçus par le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis. Pour finir, nous célébrons aujourd'hui, vendredi 16 décembre, la journée mondiale du pull moche de Noël. Alors, arborez-le fièrement! Campagne présidentielle encore et toujours. Ils sont 9 à avoir présenté un dossier de candidature à la primaire de la gauche qui se tiendra les 22 et 29 janvier 2017. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Manuel Valls, Sylvia Pinel, François de Rugy, Jean-Luc Benamias, Gérard Filoche et Fabien Verdier, candidat surprise, ont tous présenté leur candidature au siège du Parti Socialiste aujourd'hui. 6 candidats issus du PS, tous anciens membres du gouvernement sauf Fabien Verdier et Gérard Filoche. Dans les membres de la Belle Alliance Populaire, on trouve François de Rugy pour le Parti Écologiste et Jean-Luc Benamias pour l'Union des Démocrates et Écologistes. Après avoir souhaité faire cavalier seul, Sylvia Pinel, ancienne ministre du gouvernement socialiste, présidente du Parti radical de gauche et seule femme en lice pour cette élection, a finalement décidé de participer à la primaire après le renoncement de François Hollande. Les candidats font maintenant la course au soutien. De nombreux membres du gouvernement soutiennent déjà l'ancien Premier ministre Manuel Valls, comme Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Yves Le Drian ou Jean-Jacques Urvoas. Vincent Peillon, qui s'est déclaré la semaine dernière, a quant à lui reçu le soutien de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il est à noter que la haute autorité des primaires doit encore examiner et valider ces dossiers. Les résultats sont attendus le 17 décembre. À l'international maintenant, à Alep, en Syrie, l'évacuation des civils et des rebelles a repris vendredi matin mais a été interrompue vers 11h, heure locale. Les associations humanitaires sur place, comme la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ont déclaré avoir reçu l'ordre de quitter la partie est d'Alep. Entre 6000 et 7000 civils ont réussi à être évacués selon le chef de la diplomatie turque et le ministère de la Défense russe. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que, je cite, la prochaine étape en Syrie serait un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir dans la journée pour obtenir le déploiement d'observateurs internationaux à Alep. Et c'est tout pour le journal aujourd'hui.
Un journal qui finit de façon bien réjouissante, Mathias, avec cette Syrie où les choses ne pourraient décidément pas mieux se passer. Merci beaucoup pour ton journal. Et sans plus tarder, à moins que vous ayez quelques réactions enjouées sur les joies de l'actualité internationale, vous aussi.
Bah, c'est la journée du pull moche de Noël, hein. Je pense qu'on peut tous s'en réjouir.
On peut s'en réjouir, en effet.
Je refuse de porter un pull moche, j'utilise le 49.3.
Merci beaucoup, Léo. Et donc, on passe à la revue de presse avec Marie. Donc, bonjour Marie.
Bonjour Rémi.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors, quelque part entre la remarque de Léo et les pulls moches de Mathias, on a la blague de la semaine, Marie.
Oui, Rémi, je dirais même la blague du mois, voire de la décennie. Et Léo, tu crois pas si bien dire. Valse, valse l'homme du passage en force contre le Parlement. Valse l'homme du double 49-3. Ça fait presque un titre de western spaghetti. Eh bien, ce même valse propose de supprimer l'article constitutionnel qu'il a tellement utilisé. Valse, la farce de la conviction ? C'est le titre qu'on pouvait trouver dans Libé vendredi 16 décembre. Alors derrière la blague de mauvais goût et le rire jaune, la journaliste Laure Breton se propose d'analyser le sens de cette proposition constitutionnelle. Valls, en campagne contre le valsisme, fin de citation, c'est ce qu'elle se demande, dans un petit portrait satirique et mordant du candidat, qui parlait de lui à la troisième personne. Dur dur de se faire candidat tout en désavouant ce qu'on a fait comme ministre. Enfin, pas d'inquiétude, Valls a déjà 500 parrainages pour sa candidature. Comme dirait le député Da Silva, pour un mec isolé, seul, pas de gauche et clivant, c'est plutôt pas mal. Mais Laure Breton reste très sceptique. Valls, elle lui trouve quand même une petite touche Trump dans sa façon de se dire anti-système et de critiquer les médias. En voilà un bon compliment.
Oui, et d'ailleurs on parle aussi du vrai Trump dans la presse cette semaine.
Oui, tout à fait, c'est pas joli joli. Jeudi 15 décembre, le Courrier International nous proposait la traduction d'un article de Mother Jones. Mother Jones, c'est un magazine ouvertement militant et contestataire de San Francisco. Et en sa compagnie, s'est plongé, je cite, « au cœur de la fachosphère de Trump ». Bienvenue donc chez les nationalistes, islamophobes, suprémacistes blancs, masculinistes et autres néo-nazis.
Oula.
Je vous recommande complètement la lecture de cet article qui retrace la manière dont ces divers groupes haineux se sont retrouvés dans l'entourage de Trump, entourage jamais désavoué par le candidat et maintenant président des États-Unis. On y passe en revue les différents groupes, ce qui les rassemble dans leur extrémisme. Et puis on passe aussi en revue comment, parce que Trump agissait en troll en chef avec ses tweets et ses déclarations, déclarations toujours excusées comme des gaffes et pas prises comme des vrais propos, comment finalement le politiquement correct a été complètement annihilé dans le discours public américain. Avant, je cite, « il suffisait de vous traiter de raciste pour vous faire disparaître », précise l'article. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et on voit aussi comment les thèmes traités par les médias de la droite alternative ou alt-right, comme Breitbart News, se propagent dans la fachosphère, se retrouvent sur Fox News, puis dans les médias traditionnels, de proche en proche, et ce, sans filtre. Bref, un article qui montre que ça craint, que... On a raison d'être pessimiste, mais c'est une analyse vraiment très claire et passionnante de cette galaxie politique ultra-conservatrice.
Et pour avoir la photo de famille du nouveau gouvernement de Trump, le rendez-vous est pris dans Libération.
Ouais, en plus d'un dossier consacré à ce gouvernement, c'était dans le numéro de vendredi dernier, on retrouve des petits portraits au vitriol des 20 lieutenants de Trump, l'expression est dans l'article. Ils sont riches, ils sont blancs, ils sont réac, ils sont surtout des mecs, et quand même trois nanas. Et à eux tous, ils ont plus d'un tiers de la fortune des Américains les plus pauvres. Que du beau monde, donc, et une liste caustique d'hommes d'affaires, de politiques, de militaires, de civils. Bon, ok, c'est pas très approfondi comme article, ça cherche surtout à créer des images chocs, mais ça m'a quand même assez amusée aujourd'hui. En fait, ils avaient tous un peu leurs petites citations attribuées dans le portrait. Et ma palme personnelle revient à Jeff Sessions, ministre de la Justice à propos du Ku Klux Klan. Je pensais que ces gars étaient corrects jusqu'à ce que j'apprenne qu'ils fumaient de la marijuana.
C'est beau. Bon, et alors, un petit retour en France pour conclure cette revue de presse.
Oui, si tu veux. Et en une, vendredi, Le Monde nous proposait de décortiquer le discours fondateur de François Fillon. Alors, fondateur, c'est l'adjectif qu'utilise le journaliste Mathieu Gore. Il le décrit comme ça. On a donc un supplément avec reproduction intégrale et commentaire du discours prononcé le 28 août dernier dans la Sarthe, à l'époque où le petit Fillon, eh ben, personne n'aurait parié un copec sur lui. Une grande analyse de discours, pas inintéressante, et on détaille les grands thèmes, de l'enracinement au souverainisme, de la famille au récit national, de Blair à De Gaulle. Bon, j'ai juste un tout petit regret. C'est très chouette de citer des historiens dans l'analyse, vraiment. C'est juste un peu dommage d'avoir pris que les plus médiatiques et pas forcément les plus intéressants. Hashtag Michel Vinocq.
Merci beaucoup Marie pour cette revue de presse, une fois de plus, très intéressante. Et puis alors, qu'est-ce qu'on s'amuse quand même, hein ?
Oui.
Eh bien, on va continuer à s'amuser avec un sujet ô combien passionnant, l'économie. Alors, bonjour à toi Robin, qu'as-tu à nous raconter ?
Bonjour Rémi. Alors, je vais commencer par un chiffre comme d'habitude, 0,25 points. Ça correspond à l'augmentation du taux d'intérêt directeur décidé par la Fed, la Banque centrale américaine, jeudi dernier. Bon, je ne sais pas trop si ça vous parle quand je dis taux d'intérêt directeur, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vous disais lors de ma chronique de la semaine dernière sur En ce moment qu'une banque centrale, son rôle, c'était de gérer la quantité d'argent qui circule dans l'économie. Et pour réguler cette quantité d'argent en circulation, les banques centrales peuvent créer ou détruire de la monnaie.
Oui, tu disais par exemple qu'en rachetant des dettes publiques, la BCE apportait de l'argent neuf dans l'économie et de l'argent qui n'était pas là avant.
Oui, effectivement, c'est ça le principe. On apporte de l'argent qui n'était pas là avant. Sauf que ce que je vous avais expliqué à propos de ce principe qu'on dit de quantitative easing, ça s'applique à un instrument de création monétaire qu'on dit non conventionnel. C'est pas de ça qu'on sert normalement. D'habitude, les banques centrales créent de la monnaie en passant par l'intermédiaire des vraies banques, c'est-à-dire des banques commerciales. BNP Paribas, HSBC, Crédit Agricole, on les connaît. En fait, ce sont ces banques-là qui ont un pouvoir de création monétaire et les banques centrales sont censées contrôler ce pouvoir.
Des banques privées ont le droit d'imprimer des billets.
Non, elles n'ont pas le droit d'imprimer des billets, mais ça ne les empêche pas de créer de la monnaie dématérialisée, des chiffres sur un compte en banque. Normalement, le rôle de la banque, c'est d'être un intermédiaire financier. Elle prend de l'argent de ceux qui veulent l'épargner et elle le redistribue en le prêtant à ceux qui ont besoin d'argent. Sauf que voilà, parfois, il va y avoir quelqu'un qui va se pointer à la banque en demandant un prêt alors que personne n'a épargné, c'est-à-dire que personne n'a mis dans les caisses de la banque de quoi financer ce prêt. Mais la banque, elle sait qu'il y a des gens qui vont bientôt aller déposer de l'argent. Donc elle ne s'en fait pas trop, elle prête de l'argent qui n'existe pas.
Et comment elle fait pour lui donner de l'argent qui n'existe pas ? Enfin, le prêt qu'il fait, il va bien servir pour payer quelque chose ?
Oui, mais elle lui donne quand même quelque chose pour payer. En fait, elle ne le dit pas vraiment comme ça, mais c'est un peu comme si elle lui donnait un papier avec écrit « Bon pour 1000 euros à retirer à HSBC ». Imaginons que le mec qui demandait de l'argent va acheter une voiture avec ça. Eh bien, la banque, elle espère que d'ici à ce que celui qui vendait sa voiture arrive pour retirer ses 1000 euros, il y a quelqu'un d'autre qui soit arrivé pour déposer 1000 euros. Donc, elle lui donnera les 1000 euros qui ont été déposés dans ses caisses.
Et si celui qui avait déposé 1000 euros décide finalement de les récupérer ?
Eh bien, la banque, elle espère qu'il ne le fera pas tant que le premier mec, celui à qui elle avait prêté, aura remboursé les 1000 euros. Parce qu'une fois qu'il l'aura fait, elle aura de récupérer 1000 euros qu'elle pourra rendre à celui qui les avait déposés. La boucle est bouclée, et ici, il y a destruction monétaire. Mais bon, on voit bien que le système bancaire repose sur un équilibre de rotation de l'argent qui est assez fragile. Et dans les faits, ça marche pas mal, parce que les banques gèrent énormément d'argent. Du coup, les transactions de 1000 euros, c'est pas grand-chose, et ça fonctionne bien.
Ok, et du coup, maintenant qu'on sait ça, quel est le rapport avec les banques centrales, Robin ?
Eh bien justement, parfois les banques commerciales, comme elles jouent sur un équilibre précaire, elles ont peur de prêter de l'argent qu'elles n'ont pas. Mais elles veulent quand même en prêter. Du coup, elles vont se refinancer en accumulant des stocks de vrai argent, pas de l'argent qu'elles créent. Pour se refinancer, elles peuvent emprunter à d'autres banques, mais surtout elles peuvent emprunter à la banque centrale. La banque centrale, elle est ce qu'on appelle prêteuse en dernier sort. Elle va prêter autant d'argent que le veulent les banques du moment que c'est à très court terme. Les banques doivent rembourser sous quelques jours. Ce prêt, il est soumis à un intérêt, c'est-à-dire qu'on rembourse plus qu'on emprunte, et donc c'est coûteux pour les banques. En fixant le taux d'intérêt, en le relevant jeudi dernier, par exemple, la Fed peut contrôler indirectement l'activité des banques. Si le taux est élevé, les banques vont moins se refinancer, et finalement, elles vont moins prêter, et donc elles vont moins faire de création monétaire. On peut l'utiliser, par exemple, si on a peur qu'il y ait trop d'inflation.
Mais il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Pourquoi la Fed relève les taux d'intérêt à ce moment-là ?
Eh bien en fait, elle l'utilise actuellement pas tant comme un instrument de lutte contre l'inflation, mais plutôt essayer de revenir à une situation normale. En fait, après la crise des subprimes de 2008, la Fed avait énormément baissé son taux d'intérêt directeur, à tel point qu'il atteignait quasiment 0%. L'augmentation de ce décembre 2016 correspond à la deuxième augmentation en 10 ans. Si la Fed ne le faisait pas avant, ce n'était pas tellement parce qu'elle avait peur de la déflation, mais plutôt parce qu'elle avait peur que ça ait un impact sur la croissance. Si vous m'avez bien suivi jusque-là, en effet, augmenter le taux d'intérêt directeur, ça va baisser le nombre de prêts. Et si on baisse le nombre de prêts, il y a moins de consommation. Et s'il y a moins de consommation, les producteurs vendent moins. Et donc, ils produisent moins. Et donc, il y a moins de croissance. Comme en ce moment, l'économie américaine va bien, on peut augmenter le taux d'intérêt sans risque pour la croissance. Et ça nous permet en outre de pouvoir les baisser à nouveau plus tard si on doit stimuler l'économie. La décision de la Fed peut s'interpréter comme ça. C'est une préparation face à l'incertitude qui va arriver avec le mandat de Trump. Donc on se retrouvera dans quelques mois pour en rediscuter et voir ce qu'il en est. Et en attendant, je vous invite encore à écouter l'épisode numéro 5 de Tina, où Lino et Quentin nous expliquaient très bien ces rouages du système monétaire.
Eh bien, Lino et Quentin, dont tu reprends donc la suite avec cette chronique économique. Et merci beaucoup, Robin, pour cette chronique, encore une fois, particulièrement instructive sur les petits rouages de l'économie. Et puis, en termes d'instruction, n'oublions pas l'instruction scientifique, et notre petit cavalier des sciences est là, en la personne de Léo. Et bien que nous soyons au chaud dans le studio, dehors l'hiver s'est bien installé, et toi, en bon tourmenteur, tu vas nous parler du soleil, si j'ai bien compris.
Exact, mais pas du soleil gentil, hein. Je vais vous parler des grosses colères du soleil, du genre à vous coller un cancer express, ou vous faire passer en état de combustion spontanée.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
They have finally found the pink photon. 2 millions de victimes de la grippe depuis le début des pandémies.
A major outbreak of Ebola.
The death toll is rising in Nepal after a massive 7.8 magnitude earthquake struck the region.
Alors, le soleil, vous visualisez bien, c'est la grosse boule jaune qui produit de la lumière et de la chaleur qui est dans le ciel normalement. Alors, la plupart du temps, le soleil est pépère. Il envoie un bon flux de photons. Il envoie la plupart du temps un bon gros flux de photons bien tranquille, donc nous fournissant cette lumière, mais aussi une tripotée de particules cosmiques un peu moins sympathiques, mais qui sont fort heureusement arrêtées par le bouclier magnétique de la Terre et les ceintures de Van Allen. Mais voilà, des fois, le soleil se réveille un peu. Il envoie des jets de matière dans sa couche la plus superficielle, que l'on a appelée la chromosphère, des jets qui s'étendent ensuite bien au-delà du soleil, le tout accompagné d'un flot de particules donc, qui part dans l'espace. Si la Terre est sur le chemin, on a de jolies aurores boréales et australes près des pôles nord et sud respectivement, là où le champ magnétique est le plus faible. Mais pas encore de gros désagréments particuliers, sauf quand le soleil s'énerve vraiment.
Et alors ça arrive souvent ?
Alors non, à peine quelques fois en plusieurs siècles. En fait, il est difficile de savoir la vraie périodicité de ce type d'événement très violent, car l'observation et la surveillance du soleil sont des activités qui sont plutôt récentes, et donc on manque de recul. Toutefois, pour les temps qui sont plus anciens, en recoupant les archives et les comptes rendus de l'époque, on peut deviner lorsqu'une éruption solaire massive s'est produite. Par exemple, c'est ce qu'une équipe de chercheurs japonais a réussi à faire pour l'année 993 de notre ère.
Des récits de fin du monde les ont mis sur la piste ?
Alors, en fait, tout a commencé avec des arbres. Et non, pas des arbres cramés par le soleil, ce n'est pas un film de Michael Bay, précisons. Quand un arbre grandit, son tronc aussi, d'une unité que l'on appelle un cerne. Une analyse au carbone 14 de ces arbres a montré donc un fort taux de ces 14 dans les cernes qui correspondaient à l'année 993. Et ce, à différents endroits de la planète, ce qui excluait donc un événement local. Les auteurs ont donc suspecté que cette surproduction de carbone 14 était due à un rayonnement cosmique, soit d'origine solaire, ou alors venant d'un événement hors du système solaire comme une explosion de supernova. Dans tous les cas, c'est un événement qui est normalement visible, et les humains de l'époque ont dû voir quelque chose dans le ciel et ont dû sûrement le noter quelque part. Direction les archives, donc.
C'est vrai qu'en Europe, vers l'an 1000, les chrétiens étaient inquiets, car selon la Bible, les temps du jugement dernier arrivaient, alors une grosse explosion dans le ciel, ça n'a pas dû spécialement les rassurer, j'imagine.
Alors non, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Les archives ont été assez éloquentes, tant en Europe qu'ailleurs. Par exemple, en date du 21 octobre 992, deux chroniques saxonnes signalent que cette nuit-là, tout le ciel s'éteint en rouge trois fois. Deux mois plus tard, le jour de la Saint-Étienne, qui tombe donc le lendemain de Noël, le 26 décembre, ce qui ressemble à une description d'éruption solaire est signalé non seulement dans des textes allemands, mais aussi dans deux annales irlandaises. Un miracle inouï. Soudain, aux alentours du premier chant du coq, venant du nord, une telle lumière brilla que beaucoup crurent que le soleil s'était levé. Cela continua pendant une heure. après quoi le ciel légèrement rougi retourna à sa couleur normale. Un manuscrit irlandais, moins loquace, dit simplement que le ciel était rouge sang. Enfin, chez les Coréens, on trouve dans la même période la mention « Pendant une nuit, la porte du ciel s'ouvrit ». Bon, certes, c'est un peu poétique et mystérieux, mais on sait quand même que cette formule était parfois utilisée par les Asiatiques pour parler d'une aurore boréale. Oui, oui, une aurore boréale en Corée, oui. Et donc, grâce à tout cela, on a pu en déduire qu'effectivement, une éruption solaire importante s'était déroulée cette année-là, estimée à une magnitude de X2.
Et alors, il y en a eu d'autres depuis ?
Alors oui, en 1859, on a eu la deuxième plus puissante éruption solaire estimée qui était de magnitude X10. En petite note, une éruption de magnitude X3 est deux fois plus puissante qu'une X2. Donc X10 par rapport à X2, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même plus puissant. Donc là, voilà, pour parler de puissance, là les aurores boréales ne sont pas descendues jusqu'en Corée, mais jusqu'aux Caraïbes, pour vous donner une idée. On estime ainsi que, lors de l'événement, 5% de l'ozone terrestre fut vaporisée. Le flux solaire a, par induction, créé des courants électriques dans les fils du télégraphe, provoquant des surtensions parfois assez puissantes pour électrocuter les télégraphistes envoyant des messages, voire même pour incendier les stations elles-mêmes. Et en 2012, le même genre de choses nous a loupé de peu, à deux semaines près. Alors même si ça peut paraître très rare, assez lointain, il faut noter que ce genre d'événement est très dangereux avec la technologie massive sur laquelle notre société est basée. Une telle tempête, aujourd'hui, déjà grillerait tous les satellites en orbite. Désolé, il faudra apprendre à se resservir d'un plan parce que le tout récent Galileo et le GPS seront tous les deux en PLS. Ensuite, bye bye les lignes à haute tension et tout ce qui utilise plus ou moins de l'électricité, donc les circuits, l'informatique. En gros, on retourne en 1859, à l'époque du télégraphe, en quelques minutes avec plus de 2000 milliards de dollars de dégâts rien que pour les US. Et encore moins sympathique, on estime grosso modo qu'un événement comme ça a 12% de chances de se produire dans la décennie qui vient.
Mais tout ça est extrêmement rassurant pour l'informaticien que je suis, Léo.
Ah, t'auras du boulot après, te plains pas.
C'est vrai, c'est vrai. Oh, mais on a toujours du boulot, pas comme ces matheux qui essayent désespérément d'avoir des places de maître de conf. Bien, c'est cette remarque indispensable faite. Je pense qu'il est grand temps que je me taise et que je laisse donc la place à Marie et Raph pour leur journal de la culture. Bonjour Marie, bonjour Raph.
Bonjour Rémi, bonjour tout le monde.
Les paupères, les rabelles, les berlioz, les bons passants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Sartex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Bonjour à tous. Alors c'est le premier jour de vacances pour beaucoup d'entre nous, synonyme de temps libre pour certains. Je n'inclus pas tout le monde, hein, oui, parce que j'ai une pensée émue pour les joyeux inventeurs des partiels de janvier. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas non plus en vacances encore, n'est-ce pas Léo ?
Oui.
Donc bienvenue dans votre journal qui fait rime et chocolat, dinde, vin chaud avec culture.
Alors on commence avec l'actualité lyonnaise, Marie, et par du théâtre.
Et oui Raph, puisqu'il y a deux semaines, je vous parlais déjà du cycle Césaire au TNP. Alors celui-ci se poursuivra à la rentrée de janvier avec la tragédie du roi Christophe. Donc si une saison au Congo avait déjà été présentée en 2013, Christian Sciaretti monte en janvier cette autre pièce phare du théâtre d'Aimé Césaire. Alors qu'il s'agisse d'une saison au Congo qui évoquait un contexte plus récent ou de la tragédie du roi Christophe qui remonte aux origines des troubles suite à l'indépendance d'Haïti au début du XVIIIe, on retrouve à chaque fois un questionnement sur les abîmes du monde et sur les tréfonds de sa pensée colonialiste. Le théâtre ne fait drame qu'en invoquant l'histoire et non pas en la réalisant. Et donc c'est précisément là que Césaire et l'intérêt de ses pièces se situent, dans cette capacité à affirmer que l'histoire du colonialisme et de la décolonisation, qui s'est réalisée en première instance à Haïti, n'est pas qu'une histoire entre hommes sauvages et hommes civilisés. Césaire nous dévoile les enjeux politiques d'une manière très distancée et très critique et décrit dans cette pièce les étapes du passage de Henri Christophe d'une sorte de révolution pour l'amour du peuple à l'exécution d'un pouvoir autoritaire et arbitraire une fois le pouvoir conquis. C'est donc une création du Théâtre National Populaire à découvrir absolument et c'est du 19 janvier au dimanche 12 février.
Et puis, en outre, on a, en outre les expos qu'on peut trouver dans les grands musées lyonnais, on peut aussi aller à la découverte de lieux plus intimistes.
Oui, parce que si, comme moi, en ce moment, vous avez tendance un petit peu à vouloir fuir la foule des grands magasins et les marchés de Noël, je vous propose de découvrir un espace un peu privilégié. C'est le Réverbère. C'est une galerie photo dans le centre de Lyon. C'est une véritable institution à Lyon, puisque c'est un espace qui propose depuis 35 ans, ce qui est 35 ans, une longévité assez exceptionnelle pour être soulignée. Donc, il propose de mettre à l'honneur la création photographique contemporaine et ses diverses écritures. C'est un lieu tenu par les regards aiguisés de Catherine Derioz et Jacques Damez, qui sont ses créateurs.
Et qu'est-ce qu'on peut y voir en ce moment ?
Alors, en ce moment, vous avez jusqu'au 31 décembre pour profiter de l'exposition « Notre beauté fixe, photo Lali » pour Denis Roche. Alors, la photo Lali, c'est un procédé inventé par Denis Roche, qu'il décrit ainsi. J'appelle photo Lali cet écho muet, ce murmure de conversation tue, qui surgit entre deux photographies, très au-delà du simple vis-à-vis thématique ou graphique. Denis Roche, c'est un des photographes majeurs qui est représenté à la galerie et qui est décédé en 2015. Alors, cette exposition se propose comme une forme d'hommage à son œuvre et 14 artistes ont été sollicités pour créer une photo Lali, c'est-à-dire une rencontre photographique, poétique, avec un cliché choisi de Denis Roche. Donc, l'hommage ici est une véritable occasion de nouvelles créations, dans une déambulation qui est à la fois stimulante et émouvante. Et il faut savoir que Denis Roche était également un théoricien important de la photographie. Il y a plusieurs textes qui sont mis en parallèle des images pour évoquer, selon les mots de Catherine Derioz, la plume si puissante, lyrique et jouissive de Denis Roche et le grand intellectuel qu'il fut. C'est vraiment une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir ce lieu et ce photographe et la vision de son art.
Et Marie, tu nous proposes aussi un remède aux éternels débats familiaux autour du film de la soirée.
Oui, bon, attention, hein, je ne propose pas non plus de miracle, mais vous connaissez tous, hein, je pense, ici, ce super moment en famille où on est tous réunis autour du sapin, de 7 à 77 ans, et on décide avec enthousiasme de regarder un film. Bon, en général, on sait comment ça finit. Hein, le temps de trouver la bonne idée, il est déjà trop tard pour lancer le film. Le petit cousin doit aller au lit, enfin bref. Donc, à part les monomaniaques des doodles, je ne vise personne autour de la table, qui envoient sans doute un sondage en ligne plusieurs mois à l'avance à leur famille, je vous conseille un site qui vous empêchera assurément d'être à court d'idées. Donc ça s'appelle la Cinéthèque et c'est un projet vraiment stimulant parce qu'il s'agit de demander à des réalisateurs de partager leur liste personnelle de films préférés ou incontournables ayant constitué leur culture. Et cette idée vient de trois réalisateurs, Pascal Ferrand, Cédric Lapiche et Laurent Cantet. Et pour le moment, il y a déjà une quarantaine de réalisateurs qui sont associés au projet, avec entre autres Olivia Sayas, Costa Gravas, Raymond Depardon, mais on a aussi Agnès Varda, Céline Sciamma et même Park Chan-wook. Donc on a un certain éclectisme qui permet de passer avec jubilation vraiment de liste en liste, d'idée en idée. Et s'ils le veulent, d'ailleurs, les réalisateurs peuvent aussi nous expliquer dans des petits textes leur choix, l'importance de tels films dans leur carrière. Donc c'est vraiment un projet assez intéressant. Bon, par contre, je reviens peut-être un peu sur mes promesses. Hein. Ce n'est peut-être pas la fin des débats familiaux, mais au moins, vous n'aurez pas du mal à manquer d'inspiration.
Et autrement, du côté des cinémas, Marie.
Oui, bon alors là, je suis désolée, hein, c'est le moment où j'hésite à avouer honteusement ou à demi-mot que, bon, je le dis, j'ai jamais vu Star Wars. Hein. Donc coup, je passe sans doute à côté de l'événement culturel de la semaine pour certains, avec la sortie mercredi dernier de Rogue One, A Star Wars Story. Bon alors déjà pardon, hein, mais moi perdu dès la première ligne du résumé, franchement, situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars. Bon ok, mais comment on fait si on n'a pas vu ? Enfin bref, la suite ne m'a pas franchement enthousiasmée non plus, je suis désolée, alors je vous parle plutôt d'un film d'animation.
Ah c'est bien.
Voilà, qui est sorti le même jour, c'est La jeune fille sans main. De Sébastien Lodenbach. Donc on est bien loin des super pouvoirs et autres forces du mal, hein, puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un conte des frères Grimm qui a été nominé à Cannes et qui a été récompensé au Festival international du film d'animation d'Annecy par le prix du jury. Donc ce film nous propose de suivre une jeune fille qui a été vendue au diable par son père. Alors elle échappe au diable, mais elle perd ses mains et elle chemine loin de sa famille de rencontre en rencontre. Et c'est vraiment une occasion de déployer des images comme des tableaux, d'une élégance et d'une légèreté rares. Et on a vraiment une inventivité, une créativité qui valent le détour sur grand écran.
Et pour finir, Marie, changement d'ambiance radicale. Tu dépasses le cadre culturel pour t'aventurer sur le terrain géopolitique.
Oui, parce qu'en cette fin d'année, on l'a vu, hein, le contexte international est loin d'être féerique ou enchanteur. Et d'autres ici sont bien mieux placés que moi pour en parler. Mais quand même, l'actualité tragique d'Alep ces derniers jours résonne aussi cette semaine avec la culture, puisqu'on a cette semaine l'ouverture d'une exposition au Grand Palais à Paris, qui s'appelle « Site éternel de Baïmian à Palmyre, voyage au cœur des sites du patrimoine universel ». Donc l'exposition propose une immersion au cœur de quatre grands sites archéologiques en danger. L'ancienne capitale du roi Sargon à Khorsabad en Irak, le site de Palmyre, le krak des chevaliers et la grande mosquée des Omeyyades à Damas en Syrie. Donc cette exploration s'appuie sur le travail de relevé 3D de la société Iconem. Puisque les destructions commises sur ces sites archéologiques soulèvent évidemment d'énormes problématiques de conservation. Et on a plusieurs entreprises, plusieurs startups qui se sont spécialisées dans la prise de vue, notamment via des drones. Donc là, pareil, je parle avec la caution scientifique de Léo en face de moi, mais des drones qui sont capables de prendre des milliers de photographies.
Moi, je suis biologiste, hein, alors...
Non, mais ça va, je surveille, je surveille.
Voilà, tout le monde me surveille. Donc des drones qui sont capables de prendre des milliers de photographies et d'effectuer des scans à l'échelle de plusieurs kilomètres carrés. Donc c'est des moyens assez considérables qui sont mis en œuvre pour sauver au moins virtuellement les images de ces sites et de les rendre accessibles, puisque l'exposition, qui est gratuite, propose par exemple de redonner vie à la fameuse Grande Arche de Palmyre, qui était détruite par Daesh, grâce à la technologie Tango de Google. Donc en fait, on est téléphone en main, on peut par exemple contempler les différentes étapes de destruction de l'arche en réalité augmentée. Donc, c'est assez étonnant. En fait, on peut la reconstituer à l'aide, elle a été reconstituée pardon, à l'aide d'un procédé d'anastylose. C'est-à-dire qu'on peut voir l'arche telle qu'elle est aujourd'hui, détruite, et on peut reprendre avec son téléphone les blocs tombés au sol et les remonter à leur emplacement d'origine sur l'arche. Donc évidemment, ces technologies apparaissent comme une chance pour les archéologues, puisque ça, notamment, ça leur permet d'être sur des sites en guerre sans aucun risque. C'est aussi un avantage pour le public qui peut prendre conscience et connaître ces sites. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une certaine tristesse face à ce constat tout en contraste, puisque malgré mon incompétence certaine en géopolitique et aussi en sciences, mais c'est un autre débat, le contraste, c'est vraiment ce contraste entre une telle énergie internationale, une émulation intellectuelle et technologique mise au service de cette reconstruction virtuelle et a posteriori, face, on l'a vu dans ce journal notamment, face à cet immobilisme politique assez affolant. Donc c'est un constat un petit peu triste quand même, mais bon, c'est quand même du 14 décembre au 9 janvier et c'est au Grand Palais à Paris.
Heureusement du coup que Google est là pour sauver la Syrie.
Évidemment. Que faire sans Google ?
Tout à fait. Et du coup, on continue ce journal de la culture avec ton billet culturel, Raph.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Raph, pardon, va nous parler d'Antonio Moresco et de son nouveau roman, Les Incendiés, c'est ça ? Donc, Antonio Moresco est un romancier italien, et c'est la troisième œuvre de cet auteur, traduite en français par Laurent Lombard, qui est édité chez Verdier, et qui a été publié en mai 2016, après Fable d'amour en 2015 et La Petite Lumière en 2014. L'intérêt pour cet écrivain en France est relativement récent.
Alors oui, les Incendiés, c'est un roman sur le feu. Donc on a un monde voilà, qui se construit dans l'imaginaire d'un personnage qui est le narrateur de l'histoire, ou plutôt qui évolue lors des différents passages successifs qui dessinent une sorte d'intrigue. Intrigue anéantie elle-même dans son principe par une non-cohérence, une non-psychologie, une sorte de poétique de l'iridescence où tout se reflèterait. En tant que feu, la parole romanesque est dévastation et explosion, et ce feu s'exprime dans une relation d'amour en fusion entre le narrateur et une mystérieuse femme, sorte de fée ou elle-même allégorie d'un monde en ruine. Le roman se déroule entre les frontières de la vie et de la mort et se compose sous forme d'une intrigue policière. Il délaye des émotions contradictoires et des actions qui sont autant des brigues que des forfaitures. Rien n'est permanent dans tout ce roman où tout est éternel.
En fait, ça paraît être complètement fou.
Oui, fou, c'est le mot. Mais c'est une folie mélancolique, noire et tapageuse. Le roman débute alors que le narrateur s'enfonce dans sa propre solitude et va bientôt se lancer à l'assaut du monde pour découvrir une femme qui, dans le roman, aurait incendié le monde pour lui. Rien que ça.
Quelque chose qui incendie le monde. Ça me rappelle ma chronique, tiens.
Et donc, on a cette écriture qui fonctionne par différents surgissements qui viennent équarrir le mystère de la fable tout en créant une sorte de parcours qui pourrait être semblable à celui qu'on peut trouver dans un roman d'aventure ou même dans un roman d'initiation.
Mais c'est aussi un roman d'amour.
Et oui, beaucoup d'amour en ces fêtes de Noël. L'amour dans ce roman, vraiment, est un amour terrible qui met en état d'urgence le cosmos. Hein. Peut-être le même rôle que Valls, peut-être, dans notre belle démocratie, qui débride les désirs au point que les deux personnages centraux du narrateur et cette femme mystérieuse deviennent une sorte de couple de films d'action capable d'affronter et de détruire les pourris de ce monde. Le roman fait beaucoup penser à Monsieur et Madame Smith, ou Smith, je ne sais plus comment on dit en anglais, ce très grand film d'action totalement... Comment dire ? Voilà, totalement. Et donc c'est là que le roman a quelque chose de beaucoup plus sérieux et tisse à son incroyable forme poétique un lien très fort avec l'histoire politique récente et actuelle de l'Europe à travers l'évocation d'une espèce de mafia toute puissante, maîtresse du monde, et même plus tard dans l'intrigue de la guerre de l'ex-Yougoslavie, imaginant l'utopie d'un monde possible où les morts vivent plus que les vivants condamnés à mourir, une sorte de paradis de la rencontre et de l'effervescence en somme.
Oula, mais ça paraît très bizarre quand même, ça.
Oui, c'est très bizarre. Tout s'oppose et rien ne se rejoint. Et les personnages sont finalement des incendiés. Et l'image est très belle, car cela signifie précisément que rien ne saurait les éteindre, ni les larmes de joie, ni les larmes de tristesse, et qu'ils restent des êtres dévastés, mais à la fois libérés de l'étreinte et de l'écartèlement des flammes. Allégorie de notre monde moderne, ces personnages recommencent le monde par leurs actions et leurs paroles.
Donc c'est un roman, Raph, au-dessous volcanique, c'est ça ? Et prêt à nous embraser de son souffle ardent et à lire absolument, c'est ça ?
Oui.
On va le lire.
D'accord, eh bien, merci beaucoup pour tout ce volcanisme, Raph et Marie. Et puis vous terminez donc ce journal de la culture et de fait ce journal radiophonique amplifié. Avec ce volet culturel, une fois de plus, chargé. Merci beaucoup à tous les deux.
Et bonne année.
C'était le journal radiophonique amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda, avec aujourd'hui Mathias, Marie, Robin, Léo, Marie encore et Raph. Merci beaucoup aux deux Marie pour leur travail inestimable à la technique et puis un grand merci à ENS Media pour nous avoir prêté son studio professionnel où nous faisons nos débuts en solitaire aujourd'hui et nous en sommes très très fiers. Le journal radiophonique amplifié revient avec son petit frère tous politiques à la rentrée. Et puis d'ici là, nous vous souhaitons d'excellentes vacances à tous, à très bientôt.